Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes, un en parrainage civique et l'autre en sécurité alimentaire. Bonne émission!
C'est donner mon temps à quelqu'un qui en a besoin, dans la bonne action, me sentir utile.
C'est tout naturel pour moi d'essayer d'aider quelqu'un et j'avais le temps et c'est pour ça que j'ai décidé de faire du bénévolat.
Pour faire la différence, tout simplement, pour offrir du temps de qualité.
De partager, d'aider.
S'il y avait un métier qui existait qui s'appelait faire plaisir aux autres, bien c'est ce métier-là que je ferais. Puis il faut savoir être capable de donner aux autres aussi.
C'est arrivé par hasard. J'ai lu dans le journal, il y avait une annonce « bénévole recherché ». J'aimais aussi le petit lien d'amitié qu'on pouvait créer au parrainage.
Bien, c'est par ma job, en premier. Je suis chauffeur d'autobus, fait que déjà en partant, j'avais un contact avec eux autres. J'allais amener mes clients là, des activités pour le parrainage.
À mon école au cégep, dans une foire de bénévolat, ils avaient un petit kiosque et ça m'a bien attirée.
Parrainage civique, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était par le journal local. Ça m'a comme donné le goût de dire « Ah, oh, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. »
De ma colocataire, elle m'en a plusieurs fois parlé. Tout de suite, je me suis sentie à l'aise avec l'organisme, j'ai apprécié les gens.
Eh bien, en fait, je suis allée sur le site pour le bénévolat, puis j'ai tapé pour briser l'isolement. Puis rapidement, c'est une des premières offres qui sont tombées. La clientèle déficience intellectuelle, mais tout de suite... Ça,
j'ai fait des recherches pour trouver la bonne cause qui me rejoignait. J'avais envie de vivre une nouvelle expérience significative et c'est ainsi que j'ai choisi parrainage civique.
Ce qui m'attirait à la base, c'était beaucoup la trisomie puis l'autisme. Quand on m'a présenté mon filleul, il vit avec une déficience intellectuelle légère. Je trouvais que c'était tellement un beau défi qui combinait beaucoup de choses.
Des gens intéressants. On n'a pas besoin d'épater la galerie avec ces gens-là.
Ça m'a interpellé. Et là, j'ai découvert tout un monde dont j'ignorais. Un monde de personnes qui ont des besoins. J'ai dit, mon Dieu, que c'est gratifiant.
Ils sont laissés pour compte, je trouve. Les 100 voix, on s'en occupe pas beaucoup. Je disais, il va y avoir de quoi faire. Puis dans le fond, les gestes qu'on fait, comme quand je sors à Michel, c'est pas un fardeau. Moi, je le vois comme n'importe qui, n'importe quel ami.
La différence,
c'est vous qui la faites.
Alors, ça met super bien la table. On a entendu quelques bénévoles qui font du parrainage civique, mais là, on va parler avec quelqu'un qui se connaît, j'espère, en tout cas, je crois, avec Locke Corrie. Vous êtes directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. Bonjour, Locke.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ben oui, ça va.
Merci pour l'invitation.
Grand plaisir de vous recevoir parce que je vais vous avouer que le terme parrainage civique, là, grand mystère pour moi et peut-être pour deux, trois autres personnes. On va commencer par parler de tout ça avant, si vous voulez bien, qu'on rentre dans le creux du sujet. C'est quoi du parrainage civique?
Et c'est souvent la question qu'on nous pose.
Ben voilà,
le parrainage. Le parrainage civique, c'est quoi? Le parrainage civique, c'est tout simplement la mise en relation de deux personnes dans le but de créer un jumelage. Donc, il y a une personne bénévole et il y a une personne vivant avec une limitation. Cette limitation, ça peut être une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, ouais. Une problématique en santé mentale ou un handicap physique. Donc, des personnes vivant avec une limitation. Et donc, par le jumelage, on favorise la participation sociale de ces personnes-là.
Donc ça vient répondre, j'imagine, à un besoin de briser l'isolement, ces gens-là, pour qu'ils puissent sortir, qu'ils aient quelqu'un avec qui avoir un peu de social, dans le fond?
Alors c'est ça, il y a 40 ans, quand est né le parrainage civique au Québec, on répondait, alors là il y a un mot qui est assez long, la désinstitutionnalisation.
Vous l'avez dit d'une traite, beaucoup mieux dit que moi, oui.
Mais donc on répondait à cette demande-là. Mais on s'en rend compte que 40 ans après, même s'ils ne sont plus institutionnalisés, ils sont toujours dans des organismes, dans des cercles bien restreints où ils se fréquentent entre eux. Ouais. Et nous, avec le parrainage civique, on essaye de les mettre en lumière par des petites choses, parce que ce sont des citoyens comme vous et moi, des consommateurs comme vous et moi. Et ben là, on est fin septembre, mais Genre, durant tout l'été, on n'en voit pas forcément souvent en terrasse, dans les restaurants, quoi que ce soit, alors qu'ils ont le droit de participer à ça. Et grâce au jumelage, en fait, ils reprennent un peu confiance en la société. Ils participent en tant que citoyens, en tant que consommateurs, à cette société, à tout ce qu'ils ont le droit de jouer en tant que personne.
Ben, totalement, totalement. Et donc, le clip, on l'a pas choisi par hasard, là, c'est un clip de bénévoles, parce que j'imagine que le parrainage civique, ça repose pas mal sur le bénévolat, dans le fond, hein?
Oui, ben, ouais. c'est eux qui font le jumelage à travers le Québec. Il y a à peu près 1300 bénévoles à travers le Québec. Quand et à partir de ces 1300 bénévoles-là, il y a 1160 jumelages actifs au Québec.
Ah, c'est quand même significatif. Ouais. Et le parrainage civique, parce que vous êtes directeur du regroupement québécois, on comprend qu'il y a donc en dessous du regroupement, pas nécessairement en dessous, mais qu'il y a des organismes plus locaux de parrainage, c'est ça?
C'est ça, il y a une vingtaine d'organismes à travers le Québec. Dans différentes régions, on est représenté à travers le Québec. Rien qu'à Montréal, il y en a trois. En Montérégie, il y en a plusieurs, mais on est également en Chaudière-Appalaches, Abitibi, Québec, enfin bon...
Aussi loin de Québec.
Ouais. Voilà. On ne leur dira pas.
Non, c'est en tout respect, avec beaucoup d'amour pour mes amis de Québec. Qui arrive chez vous? Est-ce que ce sont des retraités qui ont du temps? Est-ce que c'est des jeunes qui n'ont pas le choix de faire du bénévolat? Est-ce que ce sont des gens qui ont le goût d'aller vers l'autre puis de découvrir aussi un monde? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît la réalité de la déficience intellectuelle ou qui... Ça ressemble à quoi les bénévoles qui s'en vont à la recherche de ces relations-là?
Alors, pour tout vous dire, vraiment, on a tous les profils.
De tout.
Les gens viennent vraiment comme ils sont, avec leur personnalité, leurs atouts, leurs faiblesses. Juste, on leur demande de vouloir partager du temps. Et qui ils sont, tout simplement. Donc, on prend vraiment tous les profils. Et en fonction du profil du bénévole, mais également du filleul avec qui il va être jumelé, on essaye de voir, en fonction des intérêts communs ou pas, on essaye de faire soit des matchs similaires ou soit des matchs de complémentarité. Ouais. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Ça peut être des jumelages mixtes, des jumelages intergénérationnels. Ça peut être vraiment de tout en fonction des envies de chacun. Donc vous avez 3 heures minimalement par mois à donner. Bah, vous êtes les bienvenus au parrainage civique.
Moi, j'aime ça. Et vous avez appelé les gens qui en bénéficient des filleuls. Donc on est vraiment dans un concept de parrain, marin, filleul, c'est ça?
C'est bien ça.
C'est une famille choisie.
C'est ça. Ben, en fait, ils rentrent petit à petit dans la famille de l'un et de l'autre parce qu'ils créent un lien social qui se développe en amitié au fil du temps. Nos plus vieux jumelages ont 35 ans maintenant et entre guillemets, je les ai rencontrés dernièrement dans ma petite tournée, ils ont vieilli ensemble, leur amitié a vieilli ensemble, etc. Donc c'est très beau à voir.
Oh, ça doit être extrêmement beau parce qu'effectivement, on n'est pas juste dans... C'est pas du bénévolat transactionnel, c'est du bénévolat émotif, c'est du bénévolat dans lequel on s'inscrit puis ça devient une relation. Là. Les gens qui en bénéficient, là, les filleuls, comme vous appeliez, comment ils lèvent la main ou comment est-ce qu'ils peuvent identifier qu'ils aimeraient ça bénéficier du parrainage civique? Est-ce que c'est par les organismes dans lesquels ils sont inscrits?
Oui, ben c'est souvent le réseau de la santé par leurs intervenantes qui nous contactent en tant qu'organisme. Il faut savoir que c'est une démarche volontaire du filleul. Il faut que ça soit lui qui ait envie de socialiser.
On ne lui impose pas de sortir.
Non, c'est
un
ça
café,
parce que alors, souvent il y a des familles qui peuvent nous contacter ou quoi que ce soit, mais il faut que ça soit une démarche également de la part du filleul. Il ait vraiment lui aussi envie de partager une relation de personne à personne avec une autre personne qui est de son réseau au tout début. Donc, ça doit être une démarche volontaire. Mais on prend des cas légers ou moyens, et il faut qu'il y ait une certaine autonomie également de la part du filleul pour se déplacer, pour parler.
J'imagine, effectivement, ne serait-ce que pour un premier contact, là, c'est sûr que d'avoir besoin d'aide à des soins d'hygiène, ça peut commencer.
Il peut y en avoir quand la relation se développe, mais oui, il doit être propre, autonome dans tout ça. On ne veut pas effrayer nos bénévoles directement.
Non, je comprends très bien. Puis, bon, évidemment, j'imagine que la relation se nourrit d'elle-même et devient aussi singulière que les gens qui en font partie au fil du temps. Une première rencontre entre un parrain, une marraine et le filleul.
Il peut être non-genré également.
Oui, Première rencontre entre ces personnes-là, voilà. Ça se passe comment? Est-ce que c'est qui choisit le lieu, qui choisit l'événement? Est-ce qu'ils sont un peu accompagnés, ces bénévoles-là qui commencent puis qui font comme, mais je vais faire quoi, je vais dire quoi?
Bah, c'est pour ça, évidemment, que nos organismes existent, mais on les encadre.
Okay.
On leur propose tout un
tas de... On les lance pas dans le vide.
Non, souvent, la première rencontre aussi se fait avec... Donc, nos agents de jumelage, nos agentes, parce qu'il n'y a que des femmes, nos agentes de jumelage qui les encadrent et ensuite qui proposent des activités. Mais on les lance pas comme ça, c'est pas comme une blind date, un rendez-vous aveugle où on les pitche comme ça. Non, on les encadre, on les accompagne, on forme également nos bénévoles vis-à-vis, entre guillemets, de nos membres.
Je comprends que vous êtes vraiment une agence de rencontre, mais pas de blind date, le blind date, pardon.
On a un Tinder qui marche mieux.
Oui.
On étudie beaucoup plus les profils.
Oui, vous réussissez à créer des maillages qui sont extraordinaires. Vous êtes arrivé au regroupement québécois du parrainage civique, certainement pour vos raisons, mais justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené vers cet organisme-là dans votre parcours?
Ben, c'est la paye.
Non, je fais genre. C'est évidemment. Évidemment.
Ben, dans le communautaire, évidemment que c'est pas forcément la paye. Mais moi, c'est vraiment la clientèle. C'était une clientèle, entre guillemets, nos membres. Déficience intellectuelle que je connaissais pas, c'était vraiment un monde que j'ignorais. J'en avais pas forcément dans mon entourage. Enfin, je croyais ne pas en avoir. Et
finalement, il
n'y a pas que ça. Mais j'ai découvert pas mal de couples qui avaient eu des enfants ou des frères et sœurs qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc voilà. Bon, moi, c'était sur la nature du poste qui m'a branché au tout début, évidemment. Mais là, ça fait 10 ans que j'y suis. Et donc, les travailleurs du mouvement, des personnes dévouées qui ont à cœur la mission, évidemment, les bénévoles qui sont des personnes extraordinaires. Alors, évidemment, tous les bénévoles sont extraordinaires, parce qu'ils s'impliquent, etc. Mais au parrainage civique, vraiment, ce sont des personnes exceptionnelles qui vraiment donnent beaucoup plus de temps parfois. Mais ce qu'ils disent à chaque fois, c'est qu'ils en retirent beaucoup plus par la suite. Mais ce sont vraiment des gens... extraordinaire, adorable. Et puis nos membres également, ils ont entre guillemets cette innocence, cette gentillesse, même s'ils ont leur caractère évidemment quand ils sont pas contents. Mais en tout cas, moi, quand je fais mes tournées d'organisme, j'ai toujours un plaisir fou à les voir.
Ah ben, j'en doute pas. Oui, effectivement, ce sont des gens qui des fois ne se mettent pas de filtre et ils vont dire exactement ce qu'ils pensent.
C'est excellent.
Il y a quelque chose d'extrêmement beau là-dedans et duquel on devrait apprendre des fois, certainement. Le regroupement québécois du parrainage civique, j'ai goût qu'on va poursuivre la conversation là après une brève pause, mais qui dit parrainage civique dit bénévole, puis je vais juste laisser la porte ouverte avant qu'on parte en pause, mais j'aimerais ça évidemment vous entendre dans quelques instants sur la pandémie, là, elle a beau être derrière nous, pandémie, bénévolat, ça n'a pas été un super de bon match en général. Si vous voulez bien, on va prendre une courte pause. Puis au retour, on va s'en aller sur cette piste-là, si ça vous va. On est avec Luc Cory, directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. On vient dans quelques instants. Restez avec nous. Alors, on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes avec Luc Cory, directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. Juste avant, j'ai lancé la question pour que vous ayez le temps de réfléchir. Le bénévolat, le parrainage civique, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu une exode de bénévoles? Parce que vous dites que vous en avez plusieurs, mais on s'entend que les aînés étaient beaucoup plus vulnérables durant la pandémie, donc ont dû mettre fin là, la plupart du temps à leurs implications. Comment vous l'avez vécu?
Alors, ça a été vraiment un chamboulement, mais pas forcément dans le négatif.
Ok.
Il y a eu au tout début, cette insouciance, parce que nous, on fait des rencontres physiques, mais évidemment, quand les bénévoles ou les filleuls ne sont pas disponibles, juste un appel, toujours maintenir ce lien social. Donc évidemment, ils ont toujours maintenu ce lien social, malgré la pandémie, avec évidemment tous les outils numériques qu'on a à disposition maintenant. mais on a constaté une fracture numérique au niveau de nos membres, que ce soit au niveau de nos bénévoles un peu plus âgés, je fais un peu d'âgisme, voilà, et nos filleuls également. Nos filleuls sont même peut-être plus aptes parfois que nos bénévoles avec ces outils-là. Donc, le lien a été constant. Okay. Ensuite, en termes de recrues de bénévoles, évidemment, ça a mis la lumière quand même, l'isolement social, etc., parce que chacun le vivait finalement, cet isolement social-là. Donc, on a eu également une vague de bénévoles potentiels qui ont contacté nos organismes. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été... Après, évidemment, on ne les a pas forcément tous gardés, ces bénévoles-là, parce que parfois, ça a été ponctuel ou quoi que ce soit, mais nous, on demande quand même un engagement sur le moyen long terme. Mais on en a gardé, près d'une moitié des gens qui ont voulu s'impliquer durant la pandémie. Mais évidemment, ça a été cette fracture numérique qui a été plus dure pour certains bénévoles ou filleuls.
Mais oui, certainement, on a réalisé, on dirait qu'on a pris pleine conscience. On pensait que la fracture numérique était en région, était dans les lieux éloignés.
Mais il y a eu une grande adaptation de tout le monde, en fait, et assez rapidement.
Ah, tant mieux.
Ouais, vraiment. Moi aussi, assez surpris. Mais les gens ont vraiment pris le pouls. Alors, évidemment, il y a eu les aides d'urgence. On a muni nos membres de tablettes, etc., pour maintenir ce lien. Mais ils ont vite fait pris le pouls.
Ah, ben tant mieux, parce qu'on a réalisé dans beaucoup d'organisations, la pandémie avait réisolé ces gens-là d'une certaine façon. Et ça a eu des conséquences, là.
Tout n'a pas été rose. Et puis, nous, on n'est pas vraiment un service de première ligne. Mais évidemment que l'isolement social a été très dur à vivre pour nos membres.
Certainement. Et là, il y a le regroupement. Et j'ai vous devant moi pour en parler. Il y a les organismes. À quoi ça sert un regroupement, justement, quand il y a une vingtaine d'organismes plus locaux dont vous me parliez?
Donc, notre mission, c'est de regrouper, soutenir.
Ah, ça, j'aime ça. Le regroupement, ça aurait regroupé.
Donc,
là, je vous suis.
On rassemble évidemment, tous nos organismes. Ouais. On est comme une communauté de pratique. On partage, on échange, on les soutient, que ce soit les directions dans le communautaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de roulements, évidemment, avec l'inflation encore plus. Ouais. Mais on soutient tous les organismes et les conseils d'administration. Que ce soit l'administratif, comptabilité, mais également l'intervention, les suivis de jumelage, aider, former nos travailleurs sur le terrain et les représenter, évidemment, sur différentes tables de concertation pour, évidemment, un meilleur financement de nos organismes communautaires en santé et services sociaux, et notamment ceux du parrainage civique, et les représenter également, comme aujourd'hui, avec votre émission, mais faire la promotion du parrainage civique à travers le Québec. On a un petit mouvement, mais on est une grande famille. Et il se trouve qu'on a un porte-parole, Marco Cagliari, qui nous aide dans cette promotion, et notamment dans le cadre de cette journée québécoise du parrainage civique qui s'en vient.
Ben parlons-en. Qu'est-ce que c'est que cette journée-là, tiens?
Ben, c'est notre journée nationale. Donc, on l'a baptisée la journée paix. Hein, souvent, un peu comme le parrainage civique. C'est quoi? C'est quoi cette journée
paix? C'est quoi la journée paix? Dites-moi.
C'est la journée du parrainage, évidemment. Hein, c'est un gros concept. Du partage, du plaisir. Donc, c'est une journée festive où tous les organismes de parrainage civique ouvrent leurs portes à travers diverses activités de promotion pour inviter leur communauté en région, enfin partout, enfin inviter les gens à venir s'intéresser donc à l'organisme. Et souvent, avec Marco Cagliari, on vient dans ces événements-là et on essaye de les ambiancer pour donc partager un moment de plaisir avec nous.
Ah ben oui, certainement qui doit amener le plaisir dans la place. J'en doute pas avec le porte-parole que vous avez là. Le parrainage civique, il est pour moi maintenant clair. Déjà, c'est extraordinaire. Puis comme vous dites, dans le rôle du regroupement, ben effectivement, vous le faites très bien d'expliquer ce que c'est parce que j'aurais pas pu recevoir la vingtaine d'organismes bien que j'aurais voulu. On aurait pu faire une saison uniquement sur le parrainage civique.
Pourquoi pas?
On va y penser pour la troisième saison. Mais à court terme, vous faites un très très beau travail de le mettre sur la carte. Les gens qui ont envie d'en faire, hein, parce que j'imagine que vous acceptez encore peut-être 2-3 bénévoles avant de fermer les portes. Ouais. Donc, il y a toujours du besoin. J'imagine des fois que le besoin doit être grand. Comment les gens, est-ce qu'ils contactent leur organisme local? Est-ce qu'ils peuvent passer par le regroupement?
Ils peuvent passer par le regroupement. On a un numéro gratuit je n'ai pas en tête là comme ça. Ah, mais c'est 1877. Ah, vous l'avez.
Je l'ai. On va le dire. Tiens, le 1877, parrain, mais pour ceux là, qui n'auraient pas envie de jouer aux devinettes avec les lettres, c'est le 1877-727-7246. Donc, retenir.
Oui, ils peuvent. Simplement. Ils tombent directement en plus sur moi. Hein, donc, ils entendent ma voix là. Voilà. Ils entendent ma voix là. Ils vont entendre la même normalement au téléphone. Mais donc, ils peuvent me contacter au niveau du regroupement ou contacter évidemment l'organisme le plus proche de leur région sur le site internet parrainagecivique.com. Ils retrouvent toutes les informations. Vous parliez de demandes. Donc oui, on a plus de 1000 jumelages actifs à travers le Québec, mais il y en a quand même 560 qui sont en attente d'un bénévole.
Quand même, donc plus que 2-3 bénévoles qui manquent.
C'est bien ça, ouais, malheureusement, à travers le Québec, donc ouais, il y en a quand même. Le besoin est là, en fait.
Le besoin est certainement là. Et donc, à retenir, donc, si jamais vous ne connaissez pas l'organisme local, vous pouvez vous rendre certainement sur parrainmarraine.com là, et le numéro 1877-PARRAIN, qui va être certainement une très, très belle porte d'entrée là, pour aller découvrir ce qu'il y a à faire là-dessus. Évidemment, lorsqu'on parle d'organisme communautaire, puis vous le faites, on sait bien que le financement n'est pas toujours pleinement au rendez-vous. Ça vient avec des défis. Le défi est double, hein? Les bénévoles et l'argent. Il n'y a rien de tout ça qui tombe du ciel. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, évidemment, au-delà de devenir parrain ou marraine et de donner du temps, ce qu'on espère que les gens vont certainement faire, comment est-ce qu'ils peuvent vous donner un coup de main, dans le fond?
Alors, pour s'impliquer autrement, évidemment, il y a des dons. À l'organisme. Il se trouve qu'au niveau du regroupement, on a ouvert un fonds de dotation du parrainage civique pour soutenir donc, la mission du parrainage civique à travers le Québec. Donc également, rendez-vous sur notre site à ce moment-là pour faire des dons. Évidemment, les organismes sont autonomes. Hein. Donc chacun gère, mais il y a différentes campagnes de financement qui sont faites sur les organismes, je pense au parrainage civique des Basses-Laurentides qui fait des cocktails dînatoires avec les gens d'affaires de leur région. Il y a une campagne de financement également à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a levé près de 200 000 dollars, ou les jumeleurs espaces communautaires à Montréal qui vendent des tickets pour obtenir des prix, où il y a des encans silencieux. Enfin bon, bref, il y a différentes choses qui sont faites pour entre guillemets, tenter d'aider la réalisation de la mission de nos organismes au quotidien.
Ben oui, certainement. Alors, on lance l'appel et quelqu'un, là, disons, moi, j'ai du temps à donner. Je ne sais pas si je vais le donner à du parrainage civique, je vais donner une autre cause. Vos bénévoles, on a entendu des clips, là, évidemment, au début de l'émission, mais vos bénévoles, ils doivent ressortir avec un certain constat, se dire, ben, ce bénévolat m'a apporté ça, m'a permis d'avoir des relations que je n'aurais pas eues. Qu'est-ce qui ressort souvent d'extraordinaire dans ces rencontres-là pour les bénévoles qui font du parrainage?
Alors, ils sont déjà très ouverts, mais ça ouvre encore plus l'esprit.
Oui.
Ça sensibilise encore plus sur la différence, sur l'impact que l'on peut faire, des petits gestes et juste, entre guillemets, être soi-même, être en contact avec une personne, être un ami pour quelqu'un, vous apportez un plus à cette personne et puis le voir évoluer, ça vous apporte énormément. Et puis, vu que le filleul vous apporte aussi énormément, tout le monde en ressort grandi. Et puis, la différence, pour pas... on est sur un milieu concurrentiel quand même, le bénévolat, mais nous, Daniel, pour vous faire venir, je vous dirais, venez vraiment comme vous êtes, ce que vous avez envie de partager. Mais je vous dis un exemple comme ça, mais par exemple, oui, bon, on peut faire des activités dites sportives, des petites marches, faire du vélo, des choses comme ça, mais juste, entre guillemets, je n'ai pas le goût de sortir, je veux juste regarder un film, manger une pizza ou quoi que ce soit. On peut faire ça.
Pas obligé de faire un Ironman.
Non, il n'y a pas forcément des activités, entre guillemets, extraordinaires que l'on demande. C'est juste partager qui vous êtes. Ça vient du cœur, votre personnalité, en fait. Donc, c'est pas contraignant. Puisque, je vais aller faire les courses. Il y en a qui vont juste faire leur épicerie ensemble, mais ils partagent ce moment-là ensemble. Donc, ils parlent de tout et de rien. Mais ce tout et de rien, c'est comme dans la vie de tous les jours. Ils partagent quelque chose ensemble. Donc, on les fait sortir de leur carcan, nos membres. Et juste vraiment, comme je vous dis, sur des activités plus ou moins banales. Mais il y en a qui ont fait des activités aussi extraordinaires. Mais Daniel, vous, vous allez faire ça, j'imagine, des activités extraordinaires.
Ben, ça va de soi, là, ça va de soi. Là. C'est jamais ordinaire avec moi. Là. Même faire l'épicerie
sportive. Partager une émission de radio avec un filleul. Je vous invite à le faire.
Ah, ben, ça sera avec grand plaisir. On a parlé, là, vous avez dit vos filleuls, on a parlé de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, handicap physique, santé mentale. Vous avez parlé du nombre de bénévoles qui vous manquent en fonction des jumelages qui sont en attente. Est-ce que vous avez observé une croissance dans la demande puis les besoins dans les dernières années ou on est dans une certaine stabilité, mais il manque toujours de bénévoles?
En fait, on est dans une croissance.
Ah oui,
toujours, hein. Demande de besoin, toujours. On est... Les bénévoles, malheureusement, ne se ruent pas à la porte de nos organismes. Certains organismes bloquent les files d'attente, enfin, bloquent leur liste d'attente. D'autres la laissent ouverte. Donc, ce nombre peut être fluctuant parce que, évidemment, on n'a pas assez de travailleurs pour s'occuper aussi de ces personnes qui sont sur une liste d'attente. On essaye toujours de maintenir ce lien, même s'ils n'ont pas de jumelage. Donc, évidemment, il y a une vie associative au niveau de nos organismes, mais les besoins sont grandissants. L'isolement social, de toute manière... avec l'ère numérique, etc., on s'isole un peu plus, et on ressent le besoin, et puis la pandémie, vraiment, l'a remarqué, on a besoin de voir les gens, d'aller prendre un café, de sortir, prendre une marche, on a besoin de ce truc-là. Les écrans, c'est bien, le numérique, c'est bien, mais on a besoin de ce lien humain, de cette relation de personne à personne, en vrai.
Ben, l'appel est lancé, et vraiment, vous avez réussi à me convaincre, Locke, votre organisme, et les rencontres, et ces moments-là, qu'on peut vivre avec quelqu'un, si vous avez au moins 3 heures de temps donné par mois, alors je vous invite certainement à considérer votre organisme de parrainage civique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un très, très grand plaisir.
Merci
de vous
pour l'invitation.
Parler de l'organisme. Je redonne les coordonnées parce que des fois, on les défile rapidement pour ne pas toujours de stylo à portée de main. Donc, c'est le 1-877-PARRAIN. Et donc, comme je dis, pour ceux qui ne veulent pas faire de devinette, 1-877-727-7246. On peut également se rendre sur parrainmarraine.com, pardon. Et la journée P, le 25 septembre, et votre porte-parole, Marco Cagliari, de cette journée-là, qui va certainement mettre de l'ambiance. Oui, allez-y.
Oui, je veux juste faire une rectification. Notre site internet, c'est parrainagecivique.com.
Parrainagecivique.com, pardon.
Mais vous allez trouver. Vous tapez parrainage civique, parrainmarraine, on est partout.
On va y arriver.
Le référencement est bon.
Bien, merci de l'avoir précisé. Alors, rendez-vous auprès de cet organisme-là. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en studio. Je vous invite évidemment à rester en onde parce que dans quelques instants, on vous présente un autre héros anonyme.